France Inter.
Bonjour Éric Delvaux. Eh bien oui, en Nouvelle-Aquitaine, dans le Poitou, où la nature lui est précieuse. On vous retrouve pour le journal de 19h. Et j'en profite aussi, Éric, pour vous souhaiter une belle année.
C'est gentil. Belle émission.
Ça, vous avez de la chance. Hein. Et les petites poulettes, elles ont bien pondu. Hein.
Habiter sur une île, ça c'est le rêve.
Hein. CO2, mon amour.
Il y a le bon air, hein, ça là. Mais vous vivez comme ça toute l'année?
Je ne comprends pas l'énoncé de la question, là.
Bah, non, vous ne travaillez pas.
Ah, certainement pas, parce que le travail, pour moi, c'est la dégradation de l'homme libre.
Avec Denis Chessou.
Il enfin, faut bien un peu d'argent pour vivre, quand même.
Je suis pour l'abolition de l'argent.
Et le chauffage, l'électricité, il faut bien la payer.
Bah, je suis directement branché au poteau de l'EDF. Ça évite les factures. Et l'hiver, bah, je me chauffe au vin. Voilà.
Sur France Inter.
Et même l'été, d'ailleurs.
Ben voilà, donc chacun ses méthodes, voyez-vous, c'est de l'adaptation. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce haut de mon amour, la nature qui chuchote à vos oreilles, avec Adèle Caglar à la technique aujourd'hui. Notre collaboratrice, c'est Camille Blanès et c'est Andrea Lechen qui réalise l'émission. Approchez au Guil-en-Neuf, c'est l'occasion de faire du neuf. Départ de l'édition 2025, de la course autour du soleil en 365 jours et des poussières, d'étoiles. Une épreuve de grosse mer, sans assistance, sans escale, dans l'univers. Une édition 2025 qui se court en solidaire, sinon c'est droit dans l'iceberg. Obligé! Car paraît-il, nous sommes tous sur le même navire. Cette petite planète est belle comme un cœur, mais un cœur malmené, parfois, ça chavire. Et comme il fait froid en politique, en démocratie, à l'étranger, partout, on a besoin de se faire du bien, de se faire de la chaleur. Et tant pis pour le CO2 si on se sert de près encore un peu. On a besoin d'y croire. Alors oui, je sais, il y a encore des gouttes dans le citron. Et cette merveilleuse fabrique à inégalité humaine adore l'essorer. Animaux, humains, nature, matières premières, allons-y tant qu'il en reste, tant qu'il en zeste. Alors au milieu de notre désabusion, besoin d'inventer autre chose. Comment ça? Le marché, même pourri, ne ment pas, point. Les politiques géraient au plus pressé. On colmatait les brèches, on mondialisait la terre, on terrassait le monde qui ramait en cale sèche. C'est où l'avenir? Quel cap on prend? Quelle direction, papa? Ah, désolé les enfants, j'ai un peu perdu la boussole. Au clair de la terre, mon ami Pierrot, mon ami Manu, sauveur du climat. On faisait de la com, on maniait les symboles pour dire qu'on agissait. Rien de nouveau sous le soleil et ses panneaux dans lesquels parfois on tombe. La Terre restait assez étrangère à ce bruit de fond. Elle débouchait régulièrement ses volcans, éternuait ses ouragans ou ses tempêtes avec bien plus de force qu'avant puisque l'humain lui en donnait la possibilité. La Terre grattait aussi sa peau de sécheresse ou se soulageait en inondant les villes. Les nains sur sa couenne devenaient plus nombreux, à vouloir tous la même chose, les mêmes objets. La machine à créer les désirs inutiles pour tous battait son plein, hissait haut. Leurs assiettes quasiment vides, les héritiers de la misère tombaient du bateau. C'était la vie sur Terre 2025. Faites un geste pour sauver la planète. Mais, mes pauvres enfants, tant que vous envisagez la nature comme une cour de récréation, un terrain de sport ou un lieu de ressourcement spirituel, tant que vous séparez la nature de vous-même, bah, moi, la Terre, je ne peux pas vraiment vous aider. Presque 7 limites planétaires sont dépassées. Allez, continuez à liker. Bah. Moi, don't look up, ça fait plus de 4 milliards d'années que je fais le métier. Mais pour vous, que j'ai laissé se multiplier, ah, je suis assez inquiète. On était pris entre le fossile et le marteau. Heureusement, on invente de nouvelles façons d'être au monde, d'être terrienne. On essaye, on fait des brouillons de résistance, on hisse les petites, les grandes voiles. Alors bien sûr, on ne voit pas très bien la forme du dessin, mais dans les têtes, ça germe, ça pousse. Allez, encore un effort. On commence à tuer le chacun pour soi et parce que je le vaux bien, parce que je le vaux d'or. Le jeu consiste à braquer avant le mur et de s'arrêter avant la falaise, à revégétaliser nos neurones, à écologiser l'humain, comme nous le dit Edgar Morin, et à mettre à la poubelle recyclage nos anciens disques durs. L'occasion de faire du neuf, une course en solidaire. Alors à vous toutes et tous, même dans la douleur pour certains, belle année 2025. Et comme cette année sera rude, bah je vous souhaite d'avoir le courage des oiseaux en hiver. Et dans quelques instants, on va se retrouver dans le jardin d'enfance de la dessinatrice Catherine Meurice. Eh bien, c'était Clou, arrière de la voiture, et moi je vais vous prendre à l'arrière de mon vélo. On peut retrouver Catherine Meurice dans les Deux-Sèvres.
On est chez mes parents, on est dans les grands espaces, on est en train d'arpenter là le jardin, on traverse le verger, et là je vois l'horizon Swan, le platane. Et il doit être au moins centenaire, mais c'est-à-dire que quand on est arrivé dans cette vieille maison, il n'y avait rien. Mes parents ont tout planté. Et moi, ce que je trouvais dommage, c'est qu'il n'y avait pas de gros arbres. Je rêvais d'arbres comme à Versailles, quoi. Je voulais des grands chênes, des grands... Et il n'y avait que lui, il n'y avait que ce platane d'énorme. Et on l'a baptisé assez rapidement Swan, alors qu'à l'époque, on n'avait pas du tout le Proust. Ouais, mais ça sonnait bien. Parce que quand on allait jouer, on disait, tiens, tu vas où? Tu vas du côté de chez Swan.
Bien sûr, c'est ça, oui.
C'est-à-dire qu'avec ma grande sœur Fanny, on a grandi ici au contact de la nature. Et je crois que ça nous a aidé d'avoir en permanence sous les yeux une force créatrice, ce qu'on appelle aujourd'hui le vivant. Je crois que ça m'a beaucoup aidé à être dessinatrice, en fait, parce que j'ai appris à observer ici, je crois. Je crois que, enfin, papa, tu peux le confirmer, mais il me semble que tu disais que...
Catherine, qui avait 6-7 ans, elle était assise là, au milieu de ce pré, qui fait 2 hectares, assise par terre, elle rêvassait. Donc on la voyait de loin, et puis on l'observait, je ne sais pas où elle était, mais elle était là, au milieu.
Chez les Meurice, père et fille. Alors, direction donc les Deux-Sèvres, région Nouvelle-Aquitaine. On garde notre vélo, vous l'avez compris, dans le Poitou, pas très loin de Niort. Alors, il y a des tas de chouettes coins hein, dans ce département des Deux-Sèvres, mais c'est aussi un très beau lieu d'agriculture productiviste qui désingue la qualité de l'eau, la santé des agriculteurs, des gens et des sols. Bien, je vous rassure, rien ne changera en France en 2025. Comme nous ne sommes pas là pour se faire du mal, je vous emmène donc dans un havre qui n'est pas un port, planqué, un jardin résistant, un jardin né de rien au départ, mais c'est celui d'enfance et du présent de la dessinatrice Catherine Meurice. Entrons donc dans le jardin de ses parents, Marie et Jean. D'ailleurs, lui, il raconte très bien les abeilles dans La vie secrète des abeilles, mais j'y reviendrai. C'est là que s'est reconstruite, après l'attentat de Charlie, il y a juste 10 ans, c'est là qu'elle a dessiné les grands espaces, qu'elle a dessiné la légèreté aux éditions d'Argo. Alors, comment ça se passe pour elle? Eh bien, à Poitiers, études de lettres modernes, et puis ensuite l'école Estienne, art déco, dessinatrice de presse, un chagrin d'amour qui la sauve de l'assassinat de Charlie. Mais aujourd'hui, on écoute sa relation forte aux éléments, un sens de l'observation comme une gymnastique. Alors elle a très tôt, grâce à ce jardin et ses parents, la conscience du vivant, une relation quasi animiste, une vie augmentée grâce à la nature, c'est un peu le credo de CO2, mon amour. Et en ce début d'année, on a quand même besoin, tout en étant lucide sur ce monde ravageur, coupé du vivant, de reconstruction, de légèreté, de nature... Et d'une académicienne des beaux-arts. Et oui, sur son épée sont gravés un renard, 4 plumes de dessinateurs décisifs pour elle, Luce, Blutsch, Bretéché et Quentin Blek. Et la date qui figure sur le porche de la maison familiale, 1784. Nous y sommes. L'hiver réfléchissait encore à son devenir. L'automne des arbres nous tendait la branche.
Quand ces arbres ont été plantés, ils m'arrivaient là à la taille. Quoi. J'étais tout petit. Et ils ont
5 fois votre taille maintenant, au moins.
Oui, voilà, au moins. Oui, on les a pas vus grandir. Et c'est ça qui est apaisant aussi, je crois. C'est que tout ça grandit lentement. Et le sol change. Le lierre est arrivé. On a vu des pervenches tout à l'heure. Là, il y a un saut de Salomon qui a été planté par ma sœur. Elle adore cette plante. Donc voilà, on fait attention au saut de Salomon. Il ne faut pas le faucher. C'est beau de voir les choses se transformer comme ça. Toute seule, quoi, sans qu'on intervienne vraiment.
J'ajoute le côté du bricoleur, c'est que au-delà de la poésie, c'est que lorsque nous sommes arrivés, ici, il n'y avait rien, pas un arbre. Tout a été planté par nous. Le verger, ce sont les arbres que nous avons greffés. Tout, je ne dis pas en autarcie, mais pratiquement, tout ça, ce sont des arbres semés ou récupérés. Tout ça, même les plus grands, donc on n'a pas vu pousser parce qu'on ne s'en est pas aperçu, mais il faisait environ 50 cm. Donc tout ça, c'est un désert. Imaginez tout ça, vite, 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 quand on est arrivé. Et là, on est dans une forêt, pratiquement. Le temps a passé, on ne s'en est pas aperçu, et voilà, nous sommes dans les grands espaces. Ce pré-là, je n'en fais rien, il reste sauvage, c'est le terrain de jeu des papillons, des moustiques, etc., et des chevreuils. Je le fauche, je viens de le chauffer une fois par an pour qu'il n'y ait pas de ronces, ouais. Mais on n'en fait absolument rien, et on regarde les bestiaux vivre, tout simplement, et on vit avec eux. Alors, le chevreuil, où cette année, c'était une chevrette avec son chevreau, elle vient boire là, je la vois de loin. Ensuite, dans mon jardin qu'elle a, je lui ai cultivé un rang d'oseille qu'elle adore. Et j'ai conclu un pacte.
Alors attendez,
avec elle.
Vous lui cultivez un rond d'oseille pour le...
Pour le chevreuil.
Ah oui, quand même.
Voilà. Alors j'ai fait un pacte avec elle, c'est-à-dire il faut la paix à mes haricots et à mes tomates, et je lui laisse l'oseille.
Et elle a tout compris ?
Elle a tout compris. Oui, les tomates, elles ne touchent absolument pas. Alors
non, pas du tout,
les tomates.
Ça, oui.
Mais par contre, l'oseille, eh ben, elle est complètement ratissée.
Ah ouais. Quand on était enfant, avec ma sœur, on a vu des chevreuils, des cerfs, des sangliers assez tôt, et c'était vraiment un émerveillement. Et je me souviens qu'on faisait ce que font pas mal de gamins de la campagne, c'est que, alors on était abonnés à la hulotte, et on avait même pris des empreintes de traces d'animaux avec du plâtre, une petite boîte de camembert,
ouais,
voilà, un cercle
ouais.
de boîte de camembert, du plâtre, et hop, on avait nos petites traces. Oui, il est passé là, on le voit.
Hop là.
On reconnaît sa trace et oui. elle marche sur un fil, hein, comme les modèles lors des showrooms, vous voyez.
Donc, pas top, des showrooms, top. Des fashion week.
Fashion week.
Non, bien sûr.
La campagne, je suis pas tellement.
Non, mais on peut pas vous en vouloir si vous voulez. Donc c'est la fashion week des chevrettes là. Voilà, c'est ça. Elle marche sur un fil, bien
oui.
sûr, oui, pour aller bouffer l'oseille. On voit très bien.
Nous touchons la limite des grands espaces. C'est le monde extérieur, après. Hein.
C'est le chaos que j'expliquais dans ma bande dessinée.
Oui, c'est ça.
Parce que vraiment, enfant, voilà, on a grandi dans ce jardin, mais qui est en fait un jardin plus des vergers, plus un grand pré. Et on s'est beaucoup amusé. On ne s'est jamais ennuyé. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne me suis jamais ennuyée ici. Mais alors, au-delà de la clôture, c'était le monde extérieur, le monde des adultes aussi. Hein, je regardais ça d'un œil très curieux, d'autant que quand on regarde très concrètement par-dessus la clôture ici ou par-dessus les murs, on voit d'autres espaces, d'autres terrains, et notamment des champs cultivés, beaucoup trop de maïs,
c'est ça.
Beaucoup trop de monocultures, beaucoup trop de pesticides, beaucoup de choses problématiques. Et voilà, je crois que j'ai eu conscience de ça très tôt, parce que j'ai vu aussi mes parents très tôt s'intéresser à la question.
Ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire qu'en fait, cette notion d'écologie et donc des combats qui vont avec, parce que ça fonctionne ensemble, c'est parti quoi, de vos aïeux, de vos parents, même encore au-delà, c'était...
Je pense que ce sont les parents. On a été observatrice très tôt, donc de questions que se sont posées mes parents ici... En arrivant à la campagne, bon, eux-mêmes ont vécu à la campagne par ailleurs, mais donc ils ont découvert des problèmes locaux. Et très tôt, on a été attentive à ça, on les a entendus commenter, faire un état des lieux. Je me souviens très bien quand, j'avais 8 ans, j'ai posé la question du passage de la ligne très haute tension qui allait jusqu'en Espagne. Et j'ai un souvenir de réunion dans un village d'à côté. Alors je crois que j'avais pas compris grand-chose, si ce n'est que c'était le mal, la ligne électrique, c'était le mal. Et que EDF devait signer des chèques à certains gens du coin pour faire passer les pylônes. Donc il y avait quelque chose de dangereux, de sulfureux. Je sentais qu'il y avait un esprit de résistance chez certains. Et puis chez d'autres, il y avait au contraire une forme de soumission. Et je pense qu'il y a une colère qui est née là, que j'ai retrouvée par ailleurs à Charlie Hebdo. Alors là, c'était le...
Tranquille,
hein, la transition
là.
Était facile, oui, vraiment. Et oui, c'était comme un poisson dans l'eau à Charlie, parce que je retrouvais des gens qui... Cabu, Tinous, etc.
Ils avaient les mêmes combats, donc...
Il y avait les mêmes combats, certains étaient plus militants que mes parents, bien sûr, mais c'était les mêmes combats, les mêmes idées, oui.
Qu'est-ce que le 1er janvier, sinon le jour honni entre tous, où des brassées d'imbéciles joviaux se jettent sur leur téléphone pour vous rappeler l'inexorable progression de votre compte à rebours avant le départ vers le Père Lachaise? Dieu merci, il n'y a pas de quoi, mais si. Cet hiver, afin de m'épargner au maximum les assauts grotesques de ces enthousiasmes hypocrites, j'ai modifié légèrement le message de mon répondeur téléphonique. Au lieu de « Bonjour à tous », j'ai mis « Bonne année mon cul ». C'est net, c'est sobre, et ça vole suffisamment bas pour que les grossiers trouvent ça vulgaire.
Vous avez su transformer la souffrance en création, mais sans pas forcément parler de souffrance, parce qu'il y a quand même ces petits bouts de désespérance, quoi, on va dire, aussi les transformer en création, c'est quand même ça qui est important. Ça.
Oui, mais c'est vrai qu'en réalisant l'album La Légèreté, bon, j'avais pas du tout prévu de le faire, évidemment.
Ah non.
Je n'ai jamais autant senti les vertus de la création, les vertus du livre. Enfin, La Légèreté, c'est une forme de tombeau, mais de tombeau joyeux, enfin, au sens noble du terme, au sens littéraire du terme, en fait. J'y mets dedans les disparus, les vivants, la famille, les écrivains que j'aime, enfin, tous les gens qui peuvent nous aider. Enfin, c'était vraiment... être ensemble pour ne pas oublier, et puis pour se serrer les coudes et continuer de
tout simplement de vivre.
De vivre et de rire. Oui, voilà, vivre et rire, ouais, ça se confond un petit peu chez moi. Mais, mais c'était vraiment... De toute façon, il n'y avait plus de colère, en fait, après l'attentat. Il n'y avait plus de colère. La colère, c'était vraiment le moteur de mes dessins de presse. Donc là, il n'y avait plus rien. Il a fallu trouver autre chose. Enfin, quand je dis il a fallu, c'est-à-dire que cette autre chose s'est imposée. Et on ressurgit des choses que je n'avais pas peut-être osé trop raconter dans mes livres, c'est-à-dire un goût pour la poésie, ce goût pour la nature, ce goût pour des choses peut-être plus tendres.
Il y a une remontée d'émotions qui s'est faite davantage.
Oui,
je crois que vous en étiez dénué. Hein,
mais... Non, non, mais je pense que je la planquais, parce que ouais, c'est vrai qu'à Charlie, tout le monde rigolait quand on disait quelque chose d'émouvant. il fallait pas baisser la garde. Et c'est vrai que j'ai été éduquée comme ça à Charlie pendant plus de 10 ans. Il fallait critiquer, il fallait se marrer, il fallait donner un coup de poing dans la gueule, comme disait Kavanagh quand il parlait du dessin de presse. Et en faisant la légèreté et tous les livres qui ont suivi après, j'ai découvert qu'il y avait autre chose, que la satire pouvait s'associer très bien avec la poésie, que la rapidité du dessin de presse se mélangeait très bien à la lenteur du dessin plus général. Voilà, j'ai découvert d'autres choses. Ouais.
On sent qu'il y a une douce irrévérence parentale, et puis ça a été un merveilleux tremplin pour la suite, en fait. Bon.
Oui, je crois que l'irrévérence, elle est là depuis toujours. Là, je regarde mon père, là, qui regarde ses pieds. Non, qui regarde les feuilles. C'est là dans la famille. Et comme ça nous sauve de pas mal de choses, enfin, ça nous sauve, on n'est jamais sauvés, hein, mais ça nous aide quand même, c'est un sacré coup de pouce pour pas mal de choses dans la vie. Ben, on l'exploite, cet esprit d'irrévérence, on le nourrit, on l'alimente. Mais sinon, on s'éteint complètement, quoi.
Alors ça me rappelle aussi une femme, Corinne Morel-Darleux, qui est écrivaine et qui s'était vraiment bien retournée sur l'émerveillement. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait pris plein de coups dans la figure avec pas mal d'engagements politiques en faveur de l'écologie. Et puis là, elle s'est dit, se tourner quand même vers le beau, c'est pas du tout refuser et fuir la réalité, mais c'est qu'au contraire, ce beau-là va me donner encore plus de force pour affronter le réel.
Oui, oui, en effet, je crois que c'est vraiment chausser des lunettes spéciales pour tenter de voir mieux. Voilà, donc c'est pas du tout occulter le réel, au contraire.
Mais non.
Et je crois que peut-être que ça s'apprend, en fait, de voir le beau. Il faut peut-être qu'on se passe le message comme quoi le beau, c'est pas quelque chose de mièvre, c'est pas quelque chose de perché, ça se mêle complètement au réel, ça nous aide à l'appréhender. Et ça peut être des minuscules portions de beau qu'on peut voir voilà, le matin entre deux nouvelles atroces. Quoi. Mais c'est vraiment avancer pas à pas, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Quoi.
Et puis même si ça rentre pas dans un tableau Excel, dans un compte d'exploitation et dans un PIB, c'est quand même ce qui nous fait sacrément du bien. Quoi.
Oui, oui, ça devrait être, la beauté devrait remplacer le PIB comme valeur de référence dans nos sociétés. Quoi.
Quand les jours meilleurs se font, attendre la vraie solution, c'est de s'entendre l'un tout contre l'autre pour s'étendre et d'être tendre.
Je ne sais pas si à l'origine les abeilles se disent « je veux être rentable », cher Jean-Maurice, parce que vous avez écrit...
Eh bien, c'est un bon sujet, parce que les abeilles sauvages reviennent à la mode.
On en a 1000 à peu près.
Et, ça c'est ce que les gens appellent des abeilles sauvages. En fait, toutes les abeilles sont sauvages. Et ils veulent dire une colonie sauvage, c'est-à-dire une colonie dont personne ne s'occupe. Vous avez les colonies domestiques et les colonies sauvages.
On est en train de regarder donc une ruche qui est accrochée sur un faillard.
Oui.
Celle-là, à l'origine, c'est quoi ? Vous avez comme fabriqué une ruche, quand même ?
Oui, alors moi, je leur offre le logis, elles s'occupent du reste. C'est-à-dire que j'aurais fait une boîte qui corresponde à ce qu'elles souhaitent, parce que les scientifiques savent ce qu'elles veulent. J'aurais fait une boîte, elles sont venues, elles se débrouillent toutes seules. Je leur fous une paie monumentale, elles se débrouillent beaucoup mieux que les abeilles dont on s'occupe.
Le miel de cette ruche-là n'est jamais récolté.
Non. Ah non, je n'y touche absolument pas.
On pourrait aller voir les autres ruches, alors pas les... Les colonies sauvages.
Les colonies domestiques.
Les colonies domestiques. Et parce que, alors, il y en a, vous verrez, l'architecture est variée. Il y a une ruche notamment qui a un petit côté jardin du Luxembourg. Mmh. Et ça, c'est l'esprit d'ici. C'est qu'on est un peu des rêveurs dans la famille. Et justement, pour agrandir l'espace, ben on invente des choses. Voilà, mon père avait construit une ruche qui lui rappelait ses ruches de la belle époque du jardin du Luxembourg. Donc il s'amuse tout seul à construire voilà, des petites toitures, des petits machins. Et on s'amuse beaucoup.
C'est l'essentiel.
Mais ça nous fait rêver. Là, il y a un petit bout de... une petite grille en fer là-bas, coincée entre les charmes, là, dans la haie de charme. Et elle donne sur rien du tout. En fait, il n'y a pas de chemin, il n'y a rien. Mais c'est un peu le petit Trianon. Ce sera nous, c'est un peu Versailles.
C'est pas mal, c'est un petit Trianon. Donc, toujours avec Catherine Meurice. Restez avec nous, on n'a pas terminé donc, la balade. Tenez, un chanteur, à mon avis, pas forcément originaire du Poitou.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Le disent si bien, fille et père, Nancy et Franck, et j'espère que vous avez fondu, car c'est fait pour cela. On a encore des oiseaux qui nous attendent ou cela dans les Deux-Sèvres, donc d'un côté, je vous le disais, agriculture productiviste, joie bonheur, mais vous avez des coins absolument super, vous avez le parc naturel régional du Marais Poitevin, vous avez le festival de mini-gouttes du film ornithologique, vous avez Pougny-Hérisson, cher à Yannick Jolin, avec le Centre du Monde, et le Nombril, parlons du Monde, d'ailleurs à retrouver hein, sur en podcast sur De Mon Amour, là, le PNR et puis aussi Pougny-Hérisson. Et là, eh bien, nous repartons dans le jardin de Catherine Meurice.
Je ne suis pas devenue jardinière ou...
pas encore.
ni bricoleuse, mais en tout cas, je fais mes livres toute seule et je crois que cet esprit d'indépendance, il est là, en fait. Il est dans ce goût farouche pour le livre que je fais de A à Z. Alors, faire de la presse, c'est autre chose, cette aventure à Charlie Hebdo.
C'est un travail d'équipe, ça.
Voilà, c'est un travail d'équipe et j'ai adoré ça. Ça m'a tout appris et j'en garde des souvenirs vraiment merveilleux. Mais faire un livre seul, évidemment, après, il y a une équipe, bien sûr. J'ai une éditrice, il y a des graphistes, il y a des gens formidables qui nous aident à faire l'objet. Mais il y a quand même ce moment où on est seul, où on va faire en sorte de faire quelque chose de bien. se respecter soi, puis respecter le lecteur aussi, essayer de ne pas raconter trop de conneries.
En fait, vous voyagez léger, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire que vous partez avec une feuille de papier, vous partez avec votre crayon, la gomme, un peu d'encre de Chine, deux pinceaux, et puis hop.
Oui, c'est ça. Je voyage léger. En effet, j'ai souvent un carnet de croquis avec moi. Et après, je dessine d'après ces notes-là. Ce sont des notes, en quelque sorte. Il y a à la fois un dessin d'imagination et un dessin documentaire. Les deux vont se mélanger. Je vais dessiner d'après mémoire, je vais dessiner d'après documents, parfois même d'après les photos que je prends. Les grands espaces, c'était vraiment ça. Je me suis, pendant un an, j'ai mitraillé ici la campagne. Je ne savais pas ce que j'allais raconter, mais intuitivement, je savais quels étaient les bouts de chemin qu'il fallait que je dessine ou que je prenne en photo, parce que ce serait quelque part dans le livre. Et il fallait que je vienne, que je prenne des photos aussi ou des notes de la lumière, de la couleur, du ciel. Donc voilà, tout ça a été un travail de documentation très naturel en quelque sorte, parce qu'on est vraiment guidé par l'intuition. En tout cas, ouais. C'est comme ça que ça marche. C'est que, bien sûr, il y a un scénario, mais au départ, il y a une intuition, il y a quelques visions, il y a quelque chose qui vient des tripes. Et voilà, il faut essayer de pousser tout ça. Tout ça se modifie, évolue comme une plante, en quelque sorte, voilà.
Ah, alors...
Alors ça, c'est le petit Trianon.
Alors ça, j'aime beaucoup, parce qu'en fait, il y a deux beaux bosquets. Nous avons une petite grille.
Et c'est tout ?
Et on peut passer sur les côtés, ce qui fait qu'elle...
Oui, c'est ça. On peut passer sur les côtés, on n'est pas du tout...
Donc elle n'a aucun intérêt pratique, mais elle est jolie.
Elle est jolie, et on aime bien la ferronnerie. Alors voilà, ça nous fait rêver. Et mon petit jardin, donc quand j'avais 7 ans, quand on est arrivé ici... Mais il était là, il était sous ce tilleul. Mmh. Et donc mon père avait fabriqué des petites barrières, exactement comme dans la bande dessinée. Et le nain de jardin trônait au milieu de, voilà, des quatre carrés, le nôtre. Donc voilà, là on a...
Il y avait un nain de jardin.
Il reste... Il y a des lilas ici, un gros chèvrefeuille. Évidemment, c'était planté avant. Hein, et moi, qu'est-ce que j'avais planté ? Des radis, des petites choses comme ça. Et alors, j'adore bouquiner sous ce noyer. On dit souvent qu'on ne doit pas
rester
sous les noyers.
Toxicité du noyer.
Toxicité. Bon, bah, moi, j'adore la lumière qui passe à travers les feuilles de noyer. J'aime bien lire ici quand je viens de temps en temps chez mes parents. Puis en plus, j'ai une vue sur la basse-cour. Déjà, j'aime entendre le petit cake. Voilà. J'aime entendre la... Le Denis chez Sou.
Bah, je fais tout là, parce que parfois on manque de moyens, vous savez, il faut tout faire dans l'émission. Voilà. Alors, Catherine, qu'est-ce qu'à la fois vous désespère, je ne vais pas dire dans ce monde, parce que là le catalogue il va être solide, bien. Mais on va dire d'un point de vue... maltraitance de la nature, pour faire simple, et aussi qu'est-ce qui vous donne espoir, qu'est-ce qui vous donne aussi envie de continuer simplement déjà de vivre.
Pour aller vite, ce qui me désespère, c'est vraiment l'incompétence du gouvernement, l'incompétence, la puissance des lobbies, enfin vraiment les reculs sans arrêt concernant les pesticides, concernant là très récemment le loup. Voilà, maintenant on va pouvoir buter plus de loups, c'est au niveau européen même. Oui. En fait, chaque jour, c'est absolument désespérant. Et ce qui me donne de l'espoir, ben c'est par exemple des mouvements comme les soulèvements de la terre. Je suis assez admirative de la façon dont ils sont organisés, l'absence de leader, en tout cas, enfin, il y a quelques figures bien sûr qui émergent du mouvement, mais il n'y a pas une seule personne qui a pris le pouvoir, donc ça permet, voilà, de ne pas s'énerver très vite contre quelqu'un. Mmh. Ils ont de l'humour, je trouve que les slogans dans leurs manifs, c'est quand même les slogans les plus drôles.
Bon.
Ce sont les plus drôles. Et
ils sont solides sur le fond.
Ils sont extrêmement solides sur le fond. Ce sont des gens extrêmement cultivés, profonds. Leurs combats sont d'une justesse. Je ne comprends pas qu'on ne soit pas tous avec eux, en fait. Mmh. Tous. C'est parce qu'ils combattent pour nous, en fait. Pour l'eau qu'on consommera plus tard, pour que rien ne se casse la gueule. Enfin, c'est vraiment le... Donc, eux me redonnent de l'espoir, ouais.
La guerre de l'eau a commencé, on se battra pour la gagner.
L'ensemble des institutions qui devraient préserver l'habitabilité de la Terre sont défaillantes. On pense qu'il est nécessaire de monter le taux.
La Terre, elle doit être aux paysans. Il ne doit pas y avoir d'entreprise où, en fait, ceux qui travaillent la Terre ne décident pas de comment les choses doivent être faites.
Et nous sommes tous des éco-terroristes. Et nous sommes tous des éco-terroristes.
Marie-Marie, je me tourne vers vous parce que, aussi, quand même, dans ce jardin, il a été fabriqué aussi grâce à vos boutures. Rappelez-nous tout simplement, qu'est-ce que c'est qu'une bouture déjà ?
C'est multiplier une plante. C'est, moi, mon plaisir, c'est de donner naissance à de nouvelles plantes. Mmh. Pourquoi ? D'abord, j'aime reproduire à l'identique les plantes que je préfère, évidemment. Et ensuite, elles grandissent, elles sont là autour de moi, je veille sur elles, je les aime, ça me rend heureuse.
Et en ce sens, je voulais vous montrer, là on est tout près de la nurserie, ce que ma mère appelle la nurserie, oui. Qui est l'endroit, alors c'était une ancienne porcherie, là on est dans une petite dépendance,
Hop là.
Toute vieille, Emma, alors là, il n'y a plus rien parce que c'est pas la bonne saison, mais c'est ici que ma mère fait, comment dire, des boutures et des reproductions de toutes les espèces qu'il y a là dans le jardin.
On peut faire des plans, on peut tout faire là.
Voilà, c'est ça. Et quand je t'avais demandé, maman, pourquoi est-ce que tu faisais ces reproductions, ces pots, etc., elle me disait, si jamais, avec ta sœur, plus tard, quand nous ne serons plus là, si jamais vous devez déménager, les valises sont prêtes. C'est-à-dire qu'on pourra emmener avec nous
des souvenirs.
Tous les souvenirs, c'est-à-dire des petits êtres, des petits charmes, des petits raisins, des petits rosiers, etc. Toutes les essences qui sont ici, on les aura avec nous. Mm-hmm. Les valises sont prêtes, c'est-à-dire qu'on pourra les emporter dans une autre maison.
C'est-à-dire du vivant, et c'est peut-être plus important d'emporter cela qui va continuer à vivre, plutôt qu'un meuble, non?
Exactement. Exactement. De toute façon, les boutures, c'est ça, c'est de la sauvegarde. Derrière ça, moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours une grande inquiétude. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. C'est aussi un peu pour ça que j'ai dessiné la bande dessinée Les Grands Espaces. C'est que cette bande dessinée parle de cette maison. Il est probable qu'on la perde, cette maison. Souvent, on perd nos maisons d'enfance. Et à chaque fois, c'est un très grand chagrin.
Et c'est une façon de la garder.
C'est une façon de la garder, de faire un livre sur elle, oui. Et de noter tout ce que... Alors, mes propres impressions, bien sûr, mais aussi d'inscrire dans les pages de mon livre la nostalgie de mes parents. À la fois, je la conserve dans ce bouquin, et aussi, je la dépasse, c'est-à-dire que je crée ma propre nostalgie, ou en tout cas, j'essaie de dépasser cette nostalgie. J'aime bien cet endroit, parce que là, cette vue-là, ça me fait penser à certains tableaux de Pissarro, ou de Caillebotte, au jardin. J'adore les peintures des impressionnistes au jardin, qui peignent des potagers. Et ici, alors on a une lumière un peu grise parce qu'aujourd'hui il pleuviote, mais quand il y a un peu de soleil, la lumière traverse les feuilles de vigne là qu'on voit. Et on pourrait s'imaginer dans un atelier de peintre.
Vous avez vu là, vous qui avez l'œil, dans la porte, paf, nous avons notre vigne.
Je dirais qu'il y a beaucoup de roses, il y a des teintes de roses là qui prédominent. Et puis il y a ce gris, un peu rosé, ce gris que j'aime beaucoup là de la porte, qui est au premier plan. Ce gris qui a vécu là, ce bois qui a pris l'eau, mais qui ne s'abîme pas, enfin qui met beaucoup d'années, de siècles à s'abîmer. Moi j'adore là ce bois gris, là, ce bois des vieilles maisons.
Ah ben, y a toute une...
C'est un bois qui n'existe plus, c'est de l'orme. Il a disparu de France.
Et c'est l'orme, c'est l'arbre qui a le dernier mot dans les grands espaces. Oui. Parce que quand on est arrivé ici, Moïse, le voisin, nous racontait qu'il y avait des ormes partout dans la région, des allées magnifiques, l'orme est vraiment très beau.
La graphiose est passée.
Et voilà, donc les ormes ont tous disparu. Et donc quand on est ici, petite, on savait que les ormes n'existaient plus, qu'on n'en verrait plus. Et alors que j'écrivais Les Grands Espaces et que je commençais à écrire le scénario, bon, j'ai interrogé mes parents et j'ai questionné sur le jardin. Et puis je suivais un peu mes parents, donc je suivais mon père dans le pré pour dire allons voir Swan, etc. Et puis au détour d'une balade, il me dit tiens, j'ai un truc à te montrer. Il dit ah bon, oui, viens voir derrière Swan, il y a un arbre là, qui est là. Et je dis qu'est-ce que c'est? Il dit c'est un orme. Et il a 30 ans, il a mon âge, j'avais plus de 30 années. Et il est là, alors pourquoi il est là? Pourquoi il est pas mort? Lui, on sait pas. Et je raconte, je finis mon album par ça, par ce mystère, et ça me plaît de ne pas avoir de réponse à ce mystère. Pourquoi l'orme est vivant? Il a survécu, voilà. J'ai écrit aussi Les Grands Espaces après la légèreté. Et je finis Les Grands Espaces par... j'invente ces mots dans la bouche du personnage de mon père, et je lui fais dire que l'orme a mon âge et nous observe. Et j'aime bien cette idée que les arbres nous regardent et nous voient passer. Ouais. Nous ne sommes que de passage.
Bon, au revoir Catherine Meurice, à bientôt.
Au revoir Denis, à bientôt.
Au revoir Denis, à bientôt.
Au revoir Jean. Et Marie. Au revoir Marie.
Au revoir.
C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin. Avec deux arbres, un pommier et un sapin.
Eh bien oui, colorisé, réalisé donc par Andrea Le Chêne. C'était notre petit jardin et je vous renvoie donc à la lecture ou la relecture des Grands Espaces ou bien de la légèreté chez Dargaud. Mais ça, vous pouvez le trouver sans difficulté, donc signé Catherine Meurice. La semaine prochaine, ce sera vœu à volonté. Alors il y aura un albatros de plus de 3,50 m d'envergure. Il y aura de la nature, il y aura de la finance. Oui, on va tout mêler, donc ce sera ça, semaine prochaine.
Station, ça va être vœu à volonté. Et grand merci donc à Camille Blanès, à Andrea Lechêne qui a réalisé l'émission, à Thierry Dupin qui a choisi les disques. On peut se retrouver avec grand plaisir sur Instagram, sur LinkedIn, où vous avez d'ailleurs les éditos de C'est de mon amour, sur Blue Sky, sur l'application Radio France. Vous en avez l'habitude, hein, si vous souhaitez vous abonner à C'est de mon amour et à tout ce que vous voulez. Hein. Et puis il ne me reste plus quoi, l'essentiel, de vous re-souhaiter une très bonne année.